France Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Agathe Lambray.
Bonsoir à tous, bienvenue dans les informés. Au sommaire, ce soir, l'accord sur les fins de carrière à la SNCF n'en finit plus de faire polémique. Bruno Le Maire convoque le PDG de l'entreprise pour qu'il rende des comptes. Mais que peut faire le ministre? Les syndicats vont-ils faire la pluie et le beau temps jusqu'au JO? Et puis, une bonne nouvelle pour le gouvernement, tout de même, la France reste le pays européen le plus attractif pour les investisseurs. Emmanuel Macron, lui, dans une interview Economist, persiste et précise, un envoi de troupes au sol en Ukraine n'est pas exclu si Moscou perce les lignes de front. Pourquoi le président n'en démord pas malgré le tollé qu'avaient suscité ses propos fin février? Et puis, thérapie de groupe à Sciences Po aujourd'hui. Un débat était organisé ce matin dans l'école secouée par le mouvement étudiant pro-palestinien, mais la contestation continue. Bonne méthode ou début d'un engrenage dangereux? Comment répondre à la colère de cette jeunesse? Pour en parler ce soir, nos informés, Nathalie Moret, journaliste politique au bureau parisien du groupe EBRA, les journaux de l'Est de la France, François Miguet, journaliste économique au Point, Bruno Cotrès, chercheur CNRS au CEVIPOF, le centre de recherche politique de Sciences Po, vous êtes enseignant à Sciences Po également, et Gilles Bornstein, éditorialiste politique à France Info, canal 27. C'est le coup de sang du jour et on va voir ensemble si c'est une posture. Bruno Le Maire tape du poing sur la table, il convoque le PDG de la SNCF après l'accord signé avec les syndicats sur les fins de carrière. Écoutez le ministre de l'économie, c'était sur BFM TV.
J'ai donc convoqué le président directeur général de la SNCF pour qu'il me rende des comptes sur cet accord, qui donne un sentiment de deux poids deux mesures, qui est très provoquant pour beaucoup de nos compatriotes qui travaillent dur et qui ont accepté la réforme des retraites et qui voient que cette réforme des retraites est nécessaire précisément pour financer notre régime de retraite par répartition, par solidarité. Donc j'ai convoqué M. Farandou et je tiens à ce qu'il m'explique comment est-ce qu'il finance cet accord qu'il a conclu
pourquoi
avec les syndicats.
Pourquoi Bruno Le Maire tape du poing sur la table aujourd'hui, Gilles Bornstein?
Il y a quelque chose d'étonnant, c'est que Bruno Le Maire, quand il n'est pas content, généralement, on le sait assez vite. Là, l'accord date du 21 ou du 22 avril, nous sommes le 2 mai, c'est ça, à ma connaissance. Donc, ça a mis quand même un certain temps pour qu'il se rende compte que ça lui plaisait pas. Ça m'étonne parce qu'on connaît le rythme effréné de la vie politique française. Ces 15 jours de délai entre l'accord et la réaction me paraissent étonnants. Alors après, pourquoi il tape du poing sur la table? Bon, on peut comprendre ce qu'il dit. D'abord, il dit qu'il n'a pas été informé par Jean-Pierre Farandou. C'est vrai que la SNCF est une entreprise publique. C'est vrai qu'il y a une co-tutelle, Transport, Bercy, l'Agence des participations de l'État, c'est à Bercy. C'est vrai que ça peut paraître bizarre qu'il n'ait pas été informé.
Vous en doutez?
J'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Les deux me paraissent très, très étonnants. Ça me paraît très étonnant qu'un accord comme ça puisse être fait sans que Bruno Le Maire le sache. En même temps, ça me paraît très étonnant qu'il manque là-dessus parce que s'il ment, on le saura. Si la SNCF l'avait prévenu, on le saura. Ce qui est vrai, c'est que comme à la fin, s'il y a des déficits, c'est le gouvernement qui les comble. Au moment de la réforme de la SNCF, l'État a quand même repris 35 milliards de dettes à la SNCF. Que Bruno Le Maire dise, bon, bah, finalement, ce n'est pas toujours l'usager, c'est le contribuable qui paye. Donc s'il y a des mesures qui coûtent beaucoup d'argent, je peux au moins être au courant, si ce n'est donner mon avis. Je le comprends. Maintenant, on a bien vu depuis un certain temps que le gouvernement fait tout avec les contrôleurs aériens, avec les policiers, pour éviter qu'il y ait des troubles pendant les Jeux Olympiques.
Et on va en parler, mais d'abord, François Miguet, pourquoi il fait polémique cet accord? Qu'est-ce qu'il y a dedans de si controversé?
C'est simple, parce que cet accord, comme le résumait très bien un des syndicalistes signataires de Sud, il revient à revenir complètement sur les effets de la réforme des retraites à la SNCF. Donc ça veut dire que vous avez une entreprise qui est 100% publique, qui, par un accord interne,
contourne
et même efface les effets pour ses troupes de la réforme des retraites, ce qui est extrêmement coûteux. Alors, le précédent accord, parce qu'il y avait déjà un accord interne à l'entreprise, coûtait environ 35 millions d'euros par an, parce qu'il y avait 12% des gens qui pouvaient le prendre qui l'avaient pris, mais cet accord est encore plus favorable, il pourrait y avoir encore plus de gens qui le prendraient, et si tous ceux qui peuvent en bénéficier le prenaient, on pourrait être à une somme d'environ 300 millions d'euros par an, ce qui est énorme, hein. Comme le rappelait Gilles Gilles Bornstein. La SNCF a été, la dette de la SNCF a été reprise par l'État, 35 milliards d'euros. L'État a versé 20 milliards de subventions à la SNCF l'année dernière. Et pour revenir sur votre première question, il apparaît à aucun des acteurs que le point a interrogé, c'est le dossier de couverture de cette semaine chez nous, crédible que le gouvernement n'ait pas été mis dans la boucle. Ah. D'autant plus que Jean-Pierre Farandou, qui est le PDG de la SNCF, voit son mandat renouvelé. On aura la décision, mais là, visiblement, hein, les échos l'ont dévoilé, il sera pas renouvelé d'ici le 13 mai. Mais enfin, il savait que son mandat était en jeu, donc il aurait été absolument suicidaire de sa part de pas en tenir informé la tutelle. Il y a une tutelle du ministre des Transports et il y a une tutelle aussi de Bercy. Donc, selon l'UNSA, selon les experts des questions sociales que nous avons interrogés, l'État et le gouvernement était au courant.
Donc, ça signifie peut-être que Bruno Le Maire était au courant, mais qu'il a voulu attendre de voir les retombées médiatiques et dans l'opinion de cet accord, Nathalie Mouret, avant de trancher, c'est ça ?
Alors moi, je ne sais pas s'il était au courant ou pas. Ce qui est sûr, c'est que son cabinet assure qu'il ne l'était pas. Et là, finalement, bon, on verra avec quand il recevra Monsieur Ferrandou pour faire la transparence sur ce qui s'est passé. En revanche, ce dont je suis sûre, c'est que cet accord-là, il a été mal perçu sur le terrain et qu'il y a eu des remontées des députés, notamment de la majorité, en disant, là, les gens, ils comprennent absolument pas ce qui est en train de se passer à la SNCF. Et il vous a pas... il vous a pas...
Échappé,
merci, que nous sommes en période électorale et qu'on est à moins de 3 mois des JO. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis le mois de janvier ? On a eu des primes pour les gendarmes, des primes pour les policiers, des primes pour les soignants, des primes pour les personnels de la RATP, pour tous ces personnels-là qui seront très sollicités pendant les JO. Et là, j'allais dire que au niveau de la communication, si vous voulez, ça arrive comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On a d'un côté Bruno Le Maire qui se bat depuis des mois en disant maintenant le quoi qu'il en coûte, c'est terminé, il faut qu'on fasse tous des efforts, etc. Et on a cette dépense supplémentaire, en fait, du côté de la SNCF. Donc au niveau de la communication, il y avait quelque chose qui matchait pas, d'où le coup de sang de ce matin en disant il y a deux poids, deux mesures. Parce qu'effectivement, un, il y a les finances de l'État et deux, il y a un ressenti mauvais sur le terrain.
On va en parler, on va se demander si c'était légitime, si c'était prévisible que Bruno Le Maire annonçait. Et puis on va se poser la question aussi du coût pour le contribuable de cet accord, juste après le fil info de Thomas Giraudeau, il est 20h10.
Un débat ce matin entre la direction de Sciences Po Paris et des étudiants n'a pas apaisé les tensions. Au moins 3 étudiants de l'école débutent une grève de la faim. Ils exigent que Sciences Po revoie ses partenariats avec des universités israéliennes. À Lille, l'école de journalisme et l'institut d'études politiques sont restés fermés, là encore, suite à des mobilisations pro-palestiniennes. L'Assemblée nationale vous a entendu. Judith Godrèche écrit ce soir sur le réseau social X, la présidente de l'hémicycle, Yael Braun-Pivet. Les députés présents ce matin ont voté à l'unanimité pour la création d'une commission d'enquête sur les abus et violences dans le cinéma. Commission appelée de ses voeux par l'actrice qui a porté plainte contre les réalisateurs Jacques Doyon et Benoît Jacquot. La reconstruction de la bande de Gaza va coûter entre 30 et 40 milliards de dollars selon l'ONU. Un de ses responsables parle de destruction d'une ampleur inédite depuis la Deuxième Guerre mondiale. Le Hamas étudie toujours une proposition de trêve israélienne. Elle prévoit 40 jours sans combat et la libération d'otages retenus à Gaza. Et puis l'OM reçoit les Italiens de l'Atalanta à Bergame ce soir en demi-finale aller de la Ligue Europa, match pour lequel la sécurité est renforcée, près de 1000 policiers et gendarmes déployés aux abords du stade Vélodrome et dans le centre-ville de Marseille.
France Info.
20h-21h, les informés. Agathe Lambret.
Toujours en compagnie de Nathalie Moret pour le groupe Ebra, François Miguet pour Le Point, Bruno Cotrès pour le Cevipof et Gilles Bornstein pour France Info, Canal 27. On parlait de cet accord sur les fins de carrière à la SNCF qui fait polémique. Est-ce que c'était prévisible finalement, une fois qu'on a dit tout ça, que Bruno Le Maire tape du poing sur la table, Bruno Cotrès ?
Oui, assez prévisible pour, je dirais, deux grandes raisons. Il y a à la fois une raison de forme, de posture générale de Bruno Le Maire. C'est vrai que c'est une séquence de communication dans laquelle on a déjà vu plusieurs fois Bruno Le Maire depuis qu'il est ministre de l'économie et des finances. L'image d'un Bruno Le Maire qui veut incarner le sérieux, qui convoque à Bercy. C'est quelque chose qu'on a déjà vu. Donc déjà sur la forme, c'était assez attendu parce que Bruno Le Maire, lui, est dans une logique de communication personnelle qui est complètement axée sur l'incarnation du sérieux à Bercy. Donc évidemment, il fallait s'y attendre. Et puis il y a le fond. Alors là, sur le fond, effectivement, je rejoins ce que Nathalie Moret disait tout à l'heure. Il fallait agir vraiment parce que ça fait de la communication très paradoxale, très contradictoire. D'une part, le Premier ministre dit rien n'est plus important que l'autorité, que les institutions qui incarnent l'autorité. Or, on semble dire que les plus hautes autorités de l'État ne sont pas au courant de quelque chose qui impacte directement l'acteur principal du transport ferroviaire.
Et mais disons éventuellement... qu'il y a un peu une autorité à géométrie variable, non ? C'est l'autorité qui est martelée tous les jours, mais alors face aux syndicats, ben voilà, ce moment, ça. L'autorité, donc, on ne l'entend pas trop.
En creux, ça envoie un message un peu paradoxal, un peu contradictoire sur la notion d'autorité. Autre message paradoxal, on a la question des déficits. Bruno Le Maire est très en pointe sur la question du déficit. Il a répété plusieurs fois, il n'y a pas d'argent magique. Il y a des administrations qui viennent d'avoir des coups de rabot, les fameux 10 milliards des coups de rabot. Et puis donc là, voilà, du point de vue de la perception du public, il fallait évidemment s'attendre à ce que Bruno Le Maire réagisse.
On est en train d'acheter la paix sociale, Gilles Bernstein, hein, petit à petit.
Ah bah oui, c'est clair que, comme l'a rappelé Nathalie, c'est quand même open bar pour les syndicats en ce moment. Je juge pas, après, c'est d'assez bonne guerre de profiter. Enfin, la politique, c'est ça, c'est de profiter, de savoir jauger des moments conjoncturels intéressants pour obtenir des choses. Et alors, il y a une inégalité entre les métiers qui seront exposés, dont la France aura besoin que ça se passe bien pendant les Jeux Olympiques, et les autres. Alors, Nathalie a fait la liste, on peut rajouter les contrôleurs aériens, mais c'est vrai qu'en ce moment, le gouvernement, et Emmanuel Macron lui-même, je pense, veut vraiment des Jeux Olympiques absolument parfaits, et tous ceux qui peuvent avoir une influence sur ce qui va se passer pendant 15 jours, enfin 15 jours, puis 15 jours pendant les Paralympiques, eux ont effectivement une chance de gagner quelque chose. Là, c'est vrai que c'est différent parce que pour les revalorisations salariales, en gros, les gens se disent, bah tant mieux, ils en profitent, tant mieux. Là, c'est vrai qu'il y a un deux poids, deux mesures. C'est pas une revalorisation salariale. C'est la possibilité donnée à une catégorie socio-professionnelle d'échapper à la réforme des retraites qui concerne tout le monde. Donc je peux comprendre que, dans l'opinion, ça a été mal perçu.
Bruno Le Maire convoque Jean-Pierre Farandou, mais est-ce qu'il peut détricoter l'accord François Miguet ?
Là, il a été... On a vu dans les journaux, je crois que c'était dans les Échos, que Jean-Pierre Farandou n'allait pas être renouvelé à la tête de la SNCF. Donc j'imagine que c'est un débat que le gouvernement pourra avoir avec le successeur de Jean-Pierre Farandou. Mais là, l'accord a été signé. Donc
compliqué, hein.
Bruno Le Maire arrive très tard dans la séquence quand même. Ça paraît assez étonnant. Mais certainement, Bruno Le Maire avait, on l'imagine de bonne foi, n'était-il peut-être pas au courant. Mais enfin, on est quand même encore une fois étonné que Matignon ne se dise pas au courant, que le ministre des Transports ne se dise pas au courant, etc.
Oui, dites-moi.
Juste, je voulais rajouter quelque chose, c'est qu'on a regardé dans les autres pays qui ont accueilli les Jeux Olympiques comment ça s'est passé. Et cette bonne guerre, à chaque fois, il y a des négociations avec les transporteurs ferroviaires, avec les conducteurs de bus, etc. Mais à chaque fois, il y a toujours eu la même solution, que ce soit à Londres ou à Rio, des primes. Et la difficulté et la nouveauté, si je puis dire, avec la SNCF, c'est qu'on a une mesure pérenne qui va coûter beaucoup d'argent sur le long terme. Ce ne sont pas juste des primes pour les travailleurs qui vont être en première ligne, ce qui est bien normal.
Donc les contribuables... En fait, ça va leur retomber dessus, c'est ça que vous dites ?
Le discours à la SNCF, évidemment...
Parce que le ministre des Transports disait que ça ne va pas coûter 1 euro aux Français, c'est pas vrai ?
Oui, alors Gilles Bernstein va certainement compléter ma réponse, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, la SNCF est devenue une société anonyme. Hein, donc cet accord, finalement, va être payé par la SNCF, ça va être dans les comptes de la SNCF. Ce qu'on remarque, malgré tout, c'est que la SNCF a tendance... à ne jamais atteindre la rentabilité, à avoir toujours besoin d'injections d'argent de public. Donc on peut imaginer que si la SNCF est en difficulté, à ce moment-là, il y aura de l'argent public qui sera injecté dans la SNCF, hein, c'est ça.
Mais même d'ailleurs, Bruno Le Maire s'interroge sur le financement de cet accord.
Exactement. C'est ce qui même compte demander au patron public, de la SNCF. D'une certaine manière, quoi qu'il arrive, ça coûte alors, entre 30 et 300 millions. Admettons que ça coûte 150 millions d'euros. C'est 150 millions d'euros, ça sera ça d'investissement en moins. Ça sera ça de baisse éventuelle des prix en moins, donc d'une certaine manière, ça sera pas payé par le contribuable, mais d'une manière ou d'une autre, ça sera payé par l'usager de la SNCF, c'est-à-dire tout le monde. Quant au coût pour les Jeux Olympiques, je trouve ça marrant parce que c'est vrai que vous dites, François, que c'est arrivé partout. À chaque fois, on nous annonce les budgets des Jeux Olympiques, ça va coûter 30 milliards. Mais c'est vrai qu'on ne réfléchit jamais au coût social. Au moment des Jeux Olympiques, on se dit pas, bah oui, mais alors à ça, faut ajouter ce que vont obtenir telle ou telle catégorie de Français, alors qu'en fait, il faudrait l'ajouter.
Bah, c'est justement la
le coût réel des des Jeux Olympiques, en fait, sera bien supérieure si on compte les éboueurs, l'accord à la SNCF, les contrôleurs aériens. Mais finalement, est-ce qu'ils ont raison, les syndicats, de profiter de cette période à quelques mois des Jeux Olympiques? Ils sont en position de force, Bruno Cotterêts. C'est quoi? C'est le jeu?
Oui, c'est de bonne guerre, évidemment. Ils ne feraient pas ça, on dirait tous. Au fond, la démocratie sociale ne fonctionne pas. C'est des mécanismes, effectivement.
Mais la démocratie sociale, c'est le chantage?
Non, c'est pas du chantage. Ça fait partie des outils de se servir d'un certain nombre de contextes, évidemment, pour pouvoir faire avancer sa cause. C'est une démarche, je dirais, de ce point de vue-là, qui est une démarche assez classique, assez politique. C'est vrai que si les Jeux Olympiques génèrent beaucoup de richesses nationales, certains peuvent dire il faut que cette richesse nationale elle soit un peu mieux partagée. Le vrai sujet, effectivement, le vrai sujet, voilà, il a été posé là tout à l'heure, qui est mesure exceptionnelle prime par rapport à des mesures qui, elles, vont être inscrites dans la durée. Parce que des mesures qui sont inscrites dans la durée posent une autre question, qui est celle de la justice et de l'équité dans la société.
Et un dialogue social apaisé en France, c'est une utopie, Nathalie Moret?
Ah bah, à 100 jours des Jeux Olympiques, oui. Juste, je voudrais donner une petite précision sur cet accord sur les fins de carrière. Souvenez-vous, quand a été voté dans les circonstances qu'on sait, la réforme des retraites l'an dernier, le gouvernement avait dit oui, mais voilà, ça va être 64 ans, mais on invite toutes les entreprises à négocier justement de façon plus intelligente les fins de carrière de leurs salariés, en peut-être faire des tuilages avec les jeunes générations, peut-être faire en sorte que les plus anciennes générations fassent moins de terrain, enfin bref, qui est quelque chose de plus intelligent sur la fin de carrière.
Mais donc c'est ce qu'a fait Jean-Pierre Farandou.
Ben oui. C'est exactement ce qu'a fait Jean-Pierre. Alors,
mais j'ai une autre question aussi, parce que donc vous dites que ça c'était presque prévu par le gouvernement. Jean-Pierre Farandou, avec cet accord, il a aussi acheté la paix sociale dans son entreprise. Et c'est aussi ce qu'on demande aux patrons, non? Est-ce qu'il n'y a pas une injonction contradictoire à redresser les bretelles de Jean-Pierre Farandou, alors que grâce à lui, il n'y aura pas de grève en mai chez Gilles Bernstein?
Il y a une injonction totalement contradictoire pour les grèves et pour ce que dit Nathalie. C'est vrai qu'on entend matin, midi et soir le gouvernement dire c'est pas normal que le taux d'emploi des seniors en France soit de 10 ou 15 points inférieur au taux d'emploi des personnes âgées, des travailleurs seniors dans les autres pays, et encourage effectivement, comme l'a dit Nathalie, les entreprises à faire des accords pour diminuer la pénibilité, pour essayer de faire ce qu'il faut pour que les gens restent. D'ailleurs, j'ai appris en préparant l'émission que Michelin, entreprise privée, avait fait ça, parce que Michelin aussi, il y a des métiers pénibles, et qu'à Michelin, un patron privé a passé exactement les mêmes accords, là, qui ne compteront pas un centime aux contribuables, etc. Donc oui, il y a une injonction contradictoire, et avec ça, Jean-Pierre Farandou, même si ça, à la fin, ça va coûter, Jean-Pierre Farandou a fait ce que le gouvernement exige des patrons en général.
Bon, on va refermer cette page et parler d'une bonne raison de se réjouir tout de même en ce moment. Et c'est un paradoxe avec ce dont on parlait, c'est que la France est le pays préféré en Europe des investisseurs étrangers. On en reparle juste après le Fil Info. Il est 20h21 avec Thomas Giraudeau.
Carla Bruni-Sarkozy est sortie de son audition à l'Office central de lutte contre la corruption sans poursuite judiciaire. La chanteuse épouse de Nicolas Sarkozy est soupçonnée d'avoir joué un rôle dans la rétractation de Ziad Takieddine. L'homme d'affaires a accusé l'ancien président d'avoir financé une partie de sa campagne de 2007 avec de l'argent libyen, avant de revenir sur ses propos. Le parquet de Toulon requiert le placement en détention provisoire d'un jeune homme soupçonné d'avoir volontairement foncé sur un groupe de personnes à la sortie d'une boîte de nuit avec qui il s'était disputé. Un homme a été tué, deux autres blessés. L'ONU demande le retrait du projet de loi sur l'influence étrangère débattu en ce moment par les députés géorgiens. À l'image du texte en vigueur en Russie, les Nations Unies craignent que l'opposition soit réduite au silence, poursuivie devant les tribunaux pour ses opinions. Depuis un mois et ce soir encore, des dizaines de milliers de personnes descendent dans les rues de la capitale Tbilissi pour protester contre le texte. Et puis Meryl Streep sera sur le tapis rouge de Cannes pour l'ouverture du festival. L'actrice américaine, nommée 21 fois aux Oscars, c'est un record, recevra une palme d'or d'honneur dans quelques jours.
France Info.
20h-21h, les informés. Agathe Lambray.
Toujours en compagnie de Nathalie Moret du groupe Hébra, François Miguet du Point, Bruno Cotterêts du Cevipof et Gilles Bernstein, éditorialiste politique sur France Info, Canal 27. Je vous le disais à l'instant, il y a une bonne nouvelle quand même dans toutes ces mauvaises nouvelles économiques, c'est que selon le rapport du cabinet d'audit EY, la France est la destination préférée des investisseurs étrangers pour la 5e année de suite. Alors pourquoi ils aiment la France, ces investisseurs étrangers? On a posé la question à Marc Lhermitte, associé au cabinet EY France. Écoutez sa réponse.
Les compétences, d'abord, c'est ce qu'elles nous disent en premier. La France, c'est quand même un bassin d'emploi avec des compétences très formées. Premièrement, les infrastructures. Hein. On peut se plaindre d'une autoroute qui est fermée, parfois que ça ne fonctionne pas comme on veut. Mais nos infrastructures, quand même, sont d'un niveau mondial, à la fois transport, mais aussi numérique, nos services publics, l'école. C'est tout ça, les entreprises le reconnaissent. Et puis, enfin, j'aurais peut-être dû commencer par là, la France, c'est la deuxième économie européenne. C'est donc un marché important. C'est un marché de consommateurs, c'est aussi un marché industriel. Airbus a besoin de sous-traitants, les entreprises agroalimentaires ont besoin aussi d'équipementiers. Donc tout ça, ça attire les entreprises venues du monde entier.
On n'a pas l'habitude d'entendre ce genre de discours, non, Bruno Cotrès, cocorico, pour une fois?
Oui, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude. Étant responsable au Cevipof d'une enquête sur la confiance politique qui, toutes les années, donne une avalanche de mauvaises nouvelles, c'est-à-dire le pessimisme dans l'avenir, la défiance dans la politique, le fait qu'on trouve que tout était mieux avant, etc. Voilà, des choses qui viennent beaucoup dans nos enquêtes. Là, c'est plutôt très bien d'avoir cette excellente nouvelle. Et surtout, c'est les motivations de cette bonne nouvelle, c'est-à-dire que c'est sur des points forts, les compétences, les infrastructures, la qualité de vie. Donc voilà effectivement des points qui sont très importants. Je pense que sur ces différents points, il y aurait matière effectivement d'avoir une communication peut-être un peu plus audacieuse, parce que c'est vrai que le manque de confiance dans l'économie, le manque de confiance dans l'avenir est une vraie particularité française. Il n'y a pas qu'en France, mais... En France, c'est à des niveaux qui sont assez élevés. On a vu quand même dans les dernières vagues de nos enquêtes, par exemple, sur l'idée que la France devait être un peu plus ouverte au reste du monde sur les questions économiques, que c'était plutôt une bonne chose qu'il y ait des entreprises qui viennent s'installer en France, c'était quand même quelque chose d'assez positivement perçu. Donc, dans une partie de l'opinion, cette très bonne nouvelle va sans doute être très bien vécue.
Mais comment expliquer ce décalage de confiance entre l'opinion et les investisseurs étrangers, Nathalie Moret?
C'est valable sur tous les sujets. Sur tous les sujets, il y a une espèce d'ambivalence française qui fait que à chaque fois on voit le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est aussi ce qu'on vit nous personnellement. On est heureux personnellement, mais malheureux au niveau du pays. Il y a toujours cette ambivalence française qui est en fait l'apanage des pays riches. Effectivement, là, sur l'économie, on a une accumulation de bons chiffres. Il y a une réindustrialisation. Moi, je le vois dans les régions où mes journaux sont implantés. On voit des entreprises qui renaissent. On voit des emplois qui sont créés. Et malgré tout, quand on interroge les personnes, ils ont plus le ressenti sur le service public qui va être défaillant à 5 km plutôt que l'entreprise qui, à 10 km, embauche 30 personnes. Oui. Donc, on a toujours cette ambivalence de voir avec deux prismes différents ce qui se passe autour de nous.
Et c'est d'ailleurs une des obsessions de Macron. Il parle tout le temps du dernier kilomètre, du fait que les gens ressentent dans le quotidien vraiment les effets concrets de sa politique. Il a une responsabilité dans cette défiance, l'exécutif Gilles Bornstein, malgré les réformes qui ont été faites pour l'attractivité de la France?
J'imagine que son arrogance perçue parfois, j'imagine que sa façon de faire de la politique peut agacer un certain nombre de personnes. J'imagine que son personnage qui paraît plutôt France d'en haut et favorisant justement l'attractivité de la... Enfin, favoriser l'attractivité de la France, nous on s'en réjouit tous, c'est tout à fait normal qu'on s'en réjouisse.
Et Emmanuel Macron a œuvré pour ça.
Mais de ce point de vue-là, alors vous me posiez la question sur est-ce qu'il est responsable de la mauvaise image qu'on a parfois de nous-mêmes? Peut-être un peu. En tout cas, est-ce qu'il est responsable, lui, de ses bons résultats? Ça serait de mauvaise foi de répondre à l'inverse. Parce que lui, il a vraiment milité beaucoup pour la, indépendamment de la baisse des impôts, il a milité pour la stabilité fiscale. Et il explique depuis 2017 que ce qui compte pour les investisseurs internationaux, c'est la stabilité, c'est de savoir, quelles que soient les conditions, c'est bien, c'est pas bien. Mais enfin, si on investit, on sait que ça ne va pas changer. Parce que ce que détestent les chefs d'entreprise, c'est l'incertitude. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, il a été un réducteur d'incertitude. Moi, je voudrais dire autre chose, parce que effectivement, comme l'a dit Bruno, quand on voit les raisons pour lesquelles les investissements étrangers sont importants, il y a la qualité de la main-d'œuvre et il y a les infrastructures. Ce qui veut dire que ces mêmes chefs d'entreprise qui protestent contre le niveau de la dépense publique, on les comprend, et donc contre le nouveau des prélèvements obligatoires, on les comprend. Mais les impôts que les Français payent, ça leur sert aussi aux patrons. Parce que les impôts que les Français payent servent à former, ça sert à financer l'école, les universités, et c'est gratuit en France, et donc ça sert à financer, à former des gens dont les patrons étrangers vous disent après que ça participe à notre attractivité, et ça sert à... C'est pas les patrons qui payent les autoroutes, les aéroports, ou les lignes de chemin de fer. Et ça aussi, les patrons étrangers nous disent, bah, si on aime bien la France, c'est parce qu'il y a des infrastructures publique. Donc, j'ai pas dit l'excès de dépenses publiques, je ne défends pas le déficit public tel qu'il est aujourd'hui. Mais la dépense publique et ce qu'elle permet de financer, ça sert aussi les intérêts des chefs d'entreprise.
Vous qui êtes journaliste économiste, vous n'avez pas été surpris que la France soit pour la cinquième année consécutive le pays préféré en Europe des investisseurs étrangers, François Miguet ?
J'allais justement vous le dire, c'est que finalement, ça fait la cinquième année consécutive. Donc, c'est quand même à mettre au crédit d'Emmanuel Macron, c'est certain. Même si le virage vers plus de compétitivité avait été en réalité amorcé par son prédécesseur,
François Hollande. Qu'est-ce qu'il a fait concrètement, Emmanuel Macron, pour rendre la France plus attractive ?
Gilles Bornstein, je disais très bien, d'abord, il a permis d'avoir un peu plus de visibilité aux entrepreneurs et aux investisseurs dans notre pays, et c'est ce qu'ils aiment le plus, notamment la visibilité fiscale, la stabilité. D'ailleurs, tous sont vigilants et se demandent si la trajectoire de baisse des impôts de production va être poursuivie. Mais il a également baissé les impôts de production, rendant la France un peu plus compétitive, même si elle ne l'est pas encore, par rapport à ses pairs, c'est-à-dire l'Allemagne et les autres pays européens. Cela dit, dans cette étude, ce qu'on voit, c'est que même s'il y a un nombre de décisions importantes qui ont été prises par les investisseurs étrangers, beaucoup sont des extensions de sites et pas des créations de sites. Et ces décisions créent moins d'emplois chez nous. Finalement, si on prenait le classement et on regardait en nombre d'emplois créés, on serait les troisièmes. L'Espagne et le Royaume-Uni créent plus d'emplois. Donc là, on a 1194 décisions d'implantation ou d'extension. Il y a beaucoup d'extensions dedans, mais ça ne crée que 40 000 emplois. Sachant qu'on a détruit, depuis les années 80, 2 millions d'emplois industriels en France. Donc il y a beaucoup à rattraper.
Merci François Miguet. On va poursuivre la conversation dans un instant, parce que là on parle des bonnes nouvelles, on se félicite, très bien, mais le cabinet met aussi en avant quelques bémols, quelques défauts bien français. On en reparle dans un instant, il est 20h30, après le fil info de Thomas Giraudeau. C'était le point sur l'info d'Edouard Marguier. Pardon, bonsoir Edouard.
Il n'y a pas de souci. Bonsoir Agathe, bonsoir à tous. Le mouvement des étudiants se poursuit en France. Au moins 6 étudiants de Sciences Po Paris ont décidé de se mettre en grève de la faim, annonce le collectif pour la Palestine de l'école. Des tentes installées place de la Sorbonne à Paris ont été évacuées. Blocage également à Lille et à Lyon. Mais peu d'établissements sont concernés, selon le président de France Université, qui estime que les choses sont sous contrôle. Déclaration sur France Info. Pour le président des États-Unis, l'ordre doit prévaloir dans les universités américaines en soutien aux Palestiniens de Gaza. Le mouvement est parti des États-Unis. Joe Biden défend ainsi les interventions de la police pour mettre fin au blocage. Il déclare également que l'antisémitisme n'a pas sa place dans les facultés, que les États-Unis ne sont pas un pays autoritaire qui réduit les gens au silence. Des nouvelles manifestations ce soir en Géorgie. Des dizaines de milliers de personnes descendent une nouvelle fois dans la rue de Tbilissi, la capitale, pour protester contre le projet de loi controversé sur l'influence étrangère, texte inspiré de la Russie, critiqué par les États-Unis et par l'Union européenne. Grève des éboueurs de Paris redoutée pendant les JO. La CGT majoritaire a déposé des préavis de grève pour une partie de ce mois de mai et pour tout l'été. Le syndicat syndicat veut ainsi obtenir une augmentation salariale ainsi qu'une prime exceptionnelle pour les Jeux Olympiques. Vers un forfait de Lucas Hernandez à l'Euro de football, le PSG annonce que le joueur souffre d'une grave blessure au genou, rupture du ligament croisé antérieur gauche. Suite à sa sortie prématurée hier soir contre Dortmund en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Le football ce soir, c'est la demi-finale toujours, match aller aussi, mais de Ligue Europa, l'Olympique de Marseille reçoit les Italiens de l'Atalanta Bergame, coup d'envoi dans une demi-heure à 21h.
France Info.
20h, 21h, France Info, les informés, Agathe Lambret.
Toujours en compagnie de Nathalie Moret pour le groupe Ebra, les journaux de l'Est de la France, François Miguet, journaliste économique au Point, Bruno Cottrelle, chercheur au CVPOF et Gilles Bornstein, éditorialiste politique sur France Info, Canal 27. On se félicitait de cette France qui est plus attractive, mais enfin, il y a quand même quelques bémols qui sont pointés par le cabinet EY. Tout ne va pas si bien.
Alors, soyons clairs, c'est une bonne étude, c'est positif, mais c'est vrai que c'est en baisse de 5%, le nombre d'implantations qui est constaté par le cabinet EY par rapport à l'année dernière. Et puis, on se compare aussi à des pays européens qui sont plus en souffrance qu'avant. L'Allemagne va moins bien qu'avant, l'Angleterre, après le Brexit, va moins bien qu'avant. La croissance est plus du côté des États-Unis et de l'Asie. C'est d'ailleurs là que investissent en majorité les investisseurs internationaux. Donc, il y a encore du pain sur la planche, notamment en matière industrielle, parce que l'industrie aujourd'hui dans le PIB français c'est que 10% et dans la moyenne européenne c'est 16%, donc on est encore loin du compte, il y a encore du travail.
Bruno Cottrelle, vous vouliez dire un mot ?
Oui, est-ce que ça veut dire pour autant que toutes ces bonnes nouvelles vont sur toutes les zones du territoire ? Et effectivement, ça, c'est un autre enjeu qui est de l'investissement en France. L'étranger, c'est très bien, qui est des créations d'entreprises, c'est très bien. Mais il y a toujours une partie du pays qui est quand même un peu à l'écart de ça. Il y a toujours effectivement des zones qui sont ou une partie du pays qui se sont un peu assignées d'une certaine manière et qui peut-être ne bénéficient pas.
Ça, par exemple, c'est plus
voilà,
difficile.
Ne bénéficient pas, en particulier les zones qui sont les zones de rural profond, par exemple. Donc voilà. Il faudrait aussi un peu regarder où est-ce que ces entreprises et où est-ce que s'installent et où est-ce que ces emplois sont créés.
On vient de parler de la politique économique d'Emmanuel Macron. Le président a aussi donné une interview dans The Economist, le journal britannique aujourd'hui, dans lequel il revient sur deux points, l'Europe et l'Ukraine. Alors, sur l'Ukraine, Emmanuel Macron assume une fois de plus un envoi possible de troupes occidentales au sol. Alors, il précise sa pensée, hein, il va un peu plus loin, il dit que il pose deux conditions. Si les Russes devaient percer les lignes de front ukrainiens et s'il y avait une demande ukrainienne, à ce moment-là, on pourrait envoyer des troupes au sol. Pourquoi Emmanuel Macron persiste malgré le tollé qu'il avait suscité fin février, Gilles Bornstein ?
Eh bien, je me pose la question. Je me pose la question, comme vous, plusieurs éléments. Emmanuel Macron est très, comment dirais-je, intéressé par le résultat de sa liste aux élections européennes. On dit que ça l'obsède. Donc j'ai du mal à penser qu'il fasse une telle déclaration sans se soucier de l'effet que ça aura sur l'électorat français. Et quand on écoute, je sais pas, mes camarades, quand on écoute les députés de la majorité, ils disent, bon, bah, il a fait son métier de président la première fois, mais enfin, quand même, c'est très anxiogène. Les gens nous demandent, alors, vous allez vraiment envoyer des gens. Les députés de la majorité disent, cette déclaration, elle avait été quand même plutôt mal perçue. Donc ça m'étonne qu'ils reviennent dessus. D'autant que, là, pour parler stratégique, dans ambiguïté stratégique, il y a ambiguïté. Une fois qu'il l'a dit une fois, je ne m'interdis rien, je ne comprends pas l'intérêt de le répéter. Parce qu'il n'arrête pas de dire, il ne faut pas que Poutine sache ce qu'on est prêt à faire. Et je ne comprends pas l'intérêt de le répéter. Alors, peut-être qu'y a-t-il une explication. C'est qu'il le dit, si les Russes devaient percer les lignes ukrainiennes, c'est ça. Peut-être que la situation sur le flanc est suffisamment grave, que ce qui avait été lancé il y a 15 jours comme une virtualité, peut-être veut-il ambiancer, comme disent nos enfants, le faire entrer dans l'atmosphère pour nous dire, bah, ce que je vous ai dit il y a 15 jours, bah, peut-être que ça se rapproche, et peut-être devez-vous vraiment vous y préparer.
Est-ce que Emmanuel Macron veut faire peur aux Français ? Est-ce que c'est pour ça qu'il dramatise ? On se souvient que son élection en 2022 a été, sa campagne en tout cas a été construite sur la guerre en Ukraine, et c'est aussi ce contexte de guerre qui a provoquer un effet drapeau, un effet de ralliement derrière Emmanuel Macron. Vous pensez, alors c'est assez cynique d'imaginer ça, mais vous pensez que le président veut dire aux Français que eh bien, la situation est toujours extrêmement grave, Bruno Cotterêts, avec peut-être cette idée en tête qui pourrait en tirer profit.
Je pense qu'il faut rendre justice au chef de l'État sur le fait qu'il est très constant sur cette question. D'abord, il y a un trait de, on va dire, de communication d'Emmanuel Macron. Moi, je ne suis pas du tout surpris qu'il revienne à nouveau, parce que c'est un trait constant chez Emmanuel Macron, qui veut toujours montrer que quand il a dit quelque chose, c'était pensé, il le maîtrise et donc il n'a pas de souci pour le redire. Et par ailleurs, l'engagement européen et l'engagement sur la question de l'Ukraine d'Emmanuel Macron est très constant, très cohérent, donc je ne suis pas extrêmement surpris. Après, effectivement, ça crée un climat anxiogène, mais le climat anxiogène du pays est déjà à un niveau très 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 élevé, on le voit dans toutes les enquêtes, dans toutes les données. Effectivement, ça pose la question, là aussi, d'une communication un peu paradoxale, qui nous dit la guerre est aux portes de l'Europe, ce qui est évidemment une dimension très 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 anxiogène. Mais on peut pas non plus faire l'hypothèse qu'Emmanuel Macron ne serait que dans une communication tacticienne visant simplement les élections européennes.
Bien sûr, et
après, ça fait partie du jeu évidemment électoral.
On est quand même en pleine campagne, mais vous insistez sur la constance d'Emmanuel Macron. On peut aller aussi plus loin en se disant, est-ce que finalement Emmanuel Macron n'est pas celui qui a aussi un coup d'avance? Parce qu'aujourd'hui, il choque tout le monde en parlant de troupes au sol en Ukraine, mais il dit lui-même dans The Economist qu'à une époque, les pays de l'OTAN, ils voulaient pas envoyer de chars, ils voulaient pas envoyer d'avions aux Ukrainiens, et finalement, toutes les limites qu'on s'était fixées, eh bien, on les a allègrement franchies. Alors, est-ce qu'il se place pas aussi un peu dans ce rôle-là, Emmanuel Macron, celui qui voit un peu plus loin et qui prend des risques finalement, parce que c'est pas consensuel?
Alors moi, je pense que vous avez totalement raison, d'autant plus qu'il le fait à trois moments différents cette semaine. Il commence à le faire la semaine dernière sur le discours de la Sorbonne, un discours fleuve qui a été entendu à l'étranger par la majorité, mais finalement pas vraiment au-delà, parce que quand on fait un discours à 11h du matin, c'est pas forcément pour le grand public. Sauf qu'il a répété les mêmes éléments de langage deux jours plus tard, devant les jeunes Européens qu'on avait réunis autour de lui avec les journaux du groupe EBRA, et il redéveloppe les mêmes éléments de langage, c'est-à-dire l'Europe, attention, elle est mortelle, il faut en prendre soin, et il a aussi une phrase sur les nationalistes. Attention, les nationalistes menacent l'Europe, etc. Et comme si c'était pas suffisant, il le refait. Exactement. Aujourd'hui dans The Economist, donc à destination de l'étranger. Donc on voit que cette séquence de communication, elle est totalement pensé pour plusieurs choses, hein. Comme vous le disiez, Agathe, sans doute pour préparer les esprits au fait que la guerre, elle est difficile et qu'il va falloir sans doute franchir un palier suffisant. Et puis ensuite, il est en campagne, vous l'avez dit, effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de l'effet drapeau. Est-ce qu'il y aura une quatrième couche? Il n'est pas exclu qu'il y en ait une, puisque Valérie Ayé, elle sera en meeting la semaine prochaine à Paris, et on entend de ci de là que Emmanuel Macron pourrait y passer une tête. Donc si c'est le cas, on peut imaginer que ce sera la quatrième couche de ce qu'il développe depuis maintenant une semaine.
Vous évoquez le fait que le président cible les nationalistes dans cette interview. On y revient juste après le Fil Info. Il est 20h39 avec Thomas Giraudeau.
La réforme controversée du droit du sol à Mayotte ne sera finalement pas présentée en Conseil des ministres dès ce mois-ci, mais en juillet prochain. Le temps de consulter les élus de la région, se défend la ministre déléguée des Outre-mer. Son collègue à l'intérieur, Gérald Darmanin, veut supprimer le droit du sol à Mayotte, un moyen selon lui de lutter contre l'immigration clandestine. Pas d'annonce de l'Élysée après une rencontre entre Emmanuel Macron et les syndicats agricoles. Le chef de l'État se dit prêt à attendre les prochaines élections professionnelles dans le secteur en janvier prochain pour revoir les et établir un nouveau projet pour l'agriculture. L'OTAN dénonce ce soir les activités malveillantes de Moscou. Elle menace la sécurité des membres de l'Alliance Atlantique. Washington reproche à la Russie d'avoir utilisé une arme chimique interdite contre les soldats ukrainiens. Le Kremlin balaye ces accusations. Et puis un absent de taille pour le PSG. Pour l'équipe de France, le défenseur Lucas Hernandez s'est rompu le ligament croisé du genou gauche hier soir lors de la défaite des Parisiens en demi-finale aller de la Ligue des Champions à Dortmund. À l'international français ne devrait pas pouvoir jouer l'Euro avec les Bleus le mois prochain.
France Info.
20h, 21h, les informés Agathe Lambret.
Toujours en compagnie de Nathalie Moret pour le groupe Ebra, François Miguet pour le Point, Bruno Cotrez pour le Cevipof et Gilles Bornstein pour France Info Canal 27. Vous vouliez revenir, François Miguet, sur cette interview d'Emmanuel Macron dans The Economist. On se demandait si quelle était la sincérité de son engagement. Est-ce que c'était aussi lié au fait que la campagne était derrière, ou c'est un engagement sincère et des convictions profondes qu'Emmanuel Macron exprime aujourd'hui?
Moi, je pense que sur ce sujet-là, qui est très grave, qui est celui de la guerre en Ukraine et de la sécurité, de la défense de l'Europe, il faut peut-être se garder de faire trop de procès en insincérité du président, n'analyser ça qu'en posture tacticienne de com', bien entendu. Hein, il y a une élection européenne qui se profile, qui est un enjeu majeur et qui est un marqueur pour le président de la République. Néanmoins, depuis qu'Angela Merkel a quitté le pouvoir, Emmanuel Macron est vu partout ailleurs dans le monde comme la voix de l'Europe. Il parle à The Economist, qui est le grand journal britannique qui s'adresse à l'intelligentsia mondiale. Et il y a un enjeu qui est réel, qui est majeur, qui est vital pour l'Europe, c'est qu'il y a une guerre en Ukraine que les Ukrainiens sont peut-être en train de perdre. Donc quand il essaye de dire « je n'exclus rien », d'abord, il ne dit pas autre chose que ce qu'il a dit avant, mais quand il convoque l'écrivain Marc Bloch, l'écrivain de l'étrange défaite, il en appelle aussi à un sursaut de combativité en Europe. Et je crois que c'est un message qui, chez lui, est assez sincère, au fond.
Et vous faites la transition avec ce que dit Emmanuel Macron sur les nationalistes, parce qu'il parle aussi de danger de mort, presque. Emmanuel Macron qui estime que tous les nationalistes sont des brexiteurs cachés qui veulent détruire l'Europe de l'intérieur. Est-ce que Emmanuel Macron veut rejouer le duel nationaliste-progressiste, Gilles Bornstein?
Je pense que oui. Je pense aussi qu'il va rentrer en campagne et de plus en plus rentrer en campagne. Effectivement, il y a ce meeting du 7 mai à la Mutualité de Nathalie Hayé auquel il pourrait participer. Oui. Pardon.
Valérie Hayé.
Nathalie, c'est vous. Auquel il pourrait participer, que ça soit là ou ailleurs. Je pense vraiment qu'il va rentrer en campagne. Pour ça, il faut qu'il clive, il faut qu'il crée de l'enjeu, il faut qu'il crée des rapports de force, à dénoncer le Rassemblement national, les nationalistes, comprendre le Rassemblement national comme il le fait, il crée l'enjeu, à redire ce qu'il avait dit effectivement à la Sorbonne, à savoir l'Europe c'est important, l'Europe est vraiment en danger. Et donc la deuxième couche sera, puisque l'Europe c'est important et que l'Europe est vraiment en danger, autant voter pour ceux, enfin en s'adressant à ses partisans, autant voter pour ceux qui veulent la défendre, et pas seuls, et pas ceux qui veulent l'affaiblir. Donc oui, je pense que ce clivage qui avait marché, cette stratégie qui avait très bien marché en 2019 de jouer les nationalistes contre les Européens, il a envie de recommencer. La question est de savoir si ça va marcher aussi bien que ça avait marché en 2019.
Emmanuel Macron qui va jusqu'à dire, en quelque sorte, c'est comme si on était en train de dire, ce n'est pas grave de compter la banque à des braqueurs. Exactement. Il compare les nationalistes à des braqueurs, Bruno Cotrez. Ça porte ce genre de discours.
On retrouve des éléments effectivement fondamentaux de la communication d'Emmanuel Macron. Je dirais qu'il ne revient pas, moi, vers le clivage nationaliste et européen, on va dire. Il n'en est jamais sorti, fondamentalement. C'est la matrice fondamentale d'Emmanuel Macron depuis 2016, depuis 2016-2017. Il a qualifié régulièrement dans ses discours les nationalistes de nationalistes belliqueux. C'était très tôt, c'était au début de son premier mandat. Et donc, on voit effectivement là une très forte constance à nouveau chez Emmanuel Macron. Je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure. Il y a beaucoup de contenu dans le discours. C'est un discours qui fait quand même 22 pages. Quand on analyse ce discours, on voit qu'il y a énormément de propositions, bien sûr, mais aussi un vocabulaire qui est assez caractéristique de la sémantique d'Emmanuel Macron depuis le début. Beaucoup de verbes d'action qui veulent aussi montrer qu'on est aussi dans la projection vers l'avenir. On ne regarde pas dans les passions tristes, dans le rétroviseur. Ça, c'est aussi du Macron. Et il y a énormément de termes qui impliquent la volonté de faire, d'agir, de décider. Donc, effectivement, on est là vraiment dans le cœur du macronisme.
Il le martèle et pourtant, ça ne marche pas, Nathalie Moret. Il y a le feu, là, pour les macronistes.
Oui, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il intervient avec ces mots-là, parce que je suis convaincue que tout l'enjeu d'Emmanuel Macron tout de suite, c'est de mobiliser son camp. Les élections européennes, c'est une élection de mobilisation. C'est une campagne dans laquelle le Rassemblement national est entré depuis le mois de septembre avec un seul mot d'ordre, 9 juin. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez un élu du Rassemblement national qui a un micro devant lui, il vous dit 9 juin. Donc ça veut dire que c'est c'est un peu ancré dans l'électorat du Rassemblement national, dont on voit qu'il est très sûr de son choix. Quand on regarde les sondages d'intention de vote, on voit que l'électorat du premier tour d'Emmanuel Macron est moins sûr de son choix. Donc on voit bien que Emmanuel Macron, là tout de suite, il est dans un enjeu de mobilisation. Et quoi de plus fort pour mobiliser son camp que de faire un peu peur et de dire attention, il y a le feu au lac. C'est exactement ce qu'il est en train de faire.
On va refermer ce dossier pour parler d'un autre sujet que l'exécutif suit de très près, c'est la grogne dans les universités, un town hall, un débat, c'est eux qui parlent de town hall, hein, ce n'est pas moi, s'est tenu aujourd'hui à Sciences Po pour tenter de mettre un terme au blocage de l'école par des mouvements pro-palestiniens. Alors, il s'agissait de mettre les choses à plat, de répondre aux revendications des étudiants. Je voudrais qu'on écoute Jean Basser, administrateur provisoire de Sciences Po.
Ça a été un débat dur, avec des prises de position assez claires, beaucoup d'émotions. Et donc, j'aspire maintenant à ce que chacun retrouve le calme, qu'on soit tous toujours dans le dialogue et qu'on veille surtout les uns les autres à assurer... dans les mêmes conditions, les examens qui doivent commencer à Sciences Po lundi prochain.
Bruno Cottret, je me tourne vers vous parce que vous avez participé à cette rencontre ce matin à Sciences Po Paris. Racontez-nous quelle était l'atmosphère.
Déjà, sur la méthode, c'est l'idée effectivement d'un débat où à la fois tous les points de vue ont pu s'exprimer, les différentes associations étaient représentées, sur scène la direction de Sciences Po, des représentants des syndicats, des représentants de toutes les tendances, des syndicats, de ceux qui défendent la cause palestinienne, les associations juives étudiantes, des représentants des grands départements internes à Sciences Po. Et je dirais une prise de parole qui a duré 2 heures, avec un débat qui était un débat effectivement très nourri, avec parfois des prises de position qui étaient extrêmement affirmées, beaucoup de dimensions aussi très politiques, aussi très émotionnelles. Donc un temps de débat qui me semble, moi, intéressant, important. Il vaut mieux dans une institution sur une question aussi importante que celle qui anime Sciences Po depuis plusieurs jours maintenant. Il vaut mieux débattre entre nous que au fond de se confronter. Et donc, c'est un petit peu le principe, voilà, d'un débat qui permet déjà l'expression des différents points de vue, que les uns, les unes se rendent compte des différents points de vue qui sont en place. Le débat a permis l'expression à peu près de tous les points de vue. Les règles du jeu du débat ont été globalement très bien respectées. Il n'y a pas eu de violence verbale, il n'y a pas eu d'injures. Donc, de ce point de vue-là, je dirais, sur le plan formel, un exercice plutôt intéressant.
Sauf que, à l'issue de ce débat, des étudiants ont lancé un nouveau sit-in. Une étudiante a même lancé une grève de la faim en soutien aux victimes palestiniennes. Donc ça recommence ?
Parce que d'une certaine manière, les lignes n'ont pas beaucoup bougé. Hein.
Chacun a campé sur ses positions. Voilà, vous avez parlé, mais sans vous accorder, c'est ça ?
La direction d'établissement a réexpliqué pour quelles raisons elle n'entendait pas mettre fin au partenariat de Sciences Po avec nos partenaires, notamment en Israël. Les étudiants ont réexpliqué à quel point ils avaient été pour eux déçus de l'attitude de Sciences Po dans cette question.
Pas tous les étudiants, voilà.
On est revenu aussi sur des moments beaucoup plus douloureux, c'est-à-dire lorsque les forces de l'ordre sont rentrées dans l'institution. On est même revenu sur le moment où le Premier ministre était venu dans l'institution. Donc voilà, ça a permis vraiment différents points de vue de s'exprimer. Mais pour le moment, c'est vrai qu'on est plutôt dans chacun campe sur ses positions. Il y a des points qui sont intéressants, en particulier l'idée d'avoir peut-être une doctrine plus nette en interne sur est-ce qu'une université comme Sciences Po doit prendre des prises de position politique ? Est-ce que c'est dans la vocation d'une université qui est là plutôt pour assurer la liberté d'expression, les libertés académiques qui sont pour nous le point fondamental ?
On va revenir dans un instant sur les revendications de ces étudiants. Quand on vous écoute, en tout cas, on constate à quel point ils sont à vif, ces jeunes. On va se poser la question de la réponse à apporter à cette colère. Il est 20h50, le Fil Info avec Thomas Géraudot.
Une dispute amoureuse à l'origine, selon le parquet, d'une agression au couteau dans un lycée de Toulouse aujourd'hui. Une élève de 16 ans très légèrement blessée au bras par un de ses camarades. Un lycéen de terminale majeur, il a été placé en garde à vue. Le ministre de l'Intérieur engage une procédure de dissolution des Remparts, un groupuscule d'extrême droite lyonnais. Un de ses anciens membres a été condamné à de la prison ferme pour une agression raciste. Deux autres associations de ce type ont été dissoutes ces derniers mois. C'est un secteur dans lequel la France a de l'avance sur les États-Unis. Les lignes de train à grande vitesse, la première LGV verra le jour aux États-Unis en 2028 entre Las Vegas et Los Angeles, mise en circulation prévue pour l'année des Jeux dans la ville californienne. Et puis dans 10 minutes, l'OM va débuter la 9e demi-finale européenne de son histoire face à l'Atalanta Bergame, match aller de ce dernier carré de la Ligue Europa au Vélodrome. Le retour, ce sera en Italie la semaine prochaine.
France Info.
20h-21h, les informés, Agathe Lambray.
Toujours en compagnie de Nathalie Moret pour le groupe Ebra, François Miguet pour le Point, Bruno Cotrez pour le Cevipof et Gilles Bornstein pour France Info, Canal 27. On parlait à l'instant des revendications des étudiants pro-palestiniens de Sciences Po. Il y en a une qui n'a pas été satisfaite aujourd'hui. Il réclame la remise en cause des partenariats entre Sciences Po et les universités israéliennes, notamment. Écoutez ce que disait à ce propos Jérôme Gage, le député socialiste qui participait aussi à ce débat.
S'il y a bien une chose qu'il ne faut pas rompre, c'est les ponts avec la société civile. De quoi on parle? On parle d'université dans lequel il y a aussi des gens qui travaillent et qui s'expriment, des laboratoires de recherche, qui sont très opposés à ce qui se passe en Israël. Dans ces universités israéliennes, il y a aussi 18 à 20% d'étudiants arabes israéliens et de résidents de Jérusalem-Est. Donc on a besoin de maintenir les ponts avec la société civile.
Voilà, c'est légitime ou c'est absurde, comme le sous-entend Jérôme Gage, de demander la remise en cause des partenariats entre Sciences Po et les universités israéliennes, Gilles Bornstein?
Je vous réponds franchement, je trouve ça complètement absurde parce que je suis d'accord avec Jérôme Gage. En gros, en Israël, alors évidemment, toutes les universités ne pensent pas la même chose et compliqué de dire ce que pense une université, mais les universités sont plutôt un terrain occupé par la gauche israélienne, parce qu'on appelait Shalom Arshav, qui était le mouvement La Paix Maintenant, plutôt des gens, des étudiants, des profs qui sont plutôt pour avancer dans une solution avec les Palestiniens, plutôt que de soutenir le gouvernement Netanyahou. Donc, ceux qui veulent régler le problème, je ne vois pas quel intérêt ils ont à affaiblir ceux qui, en Israël, soutiennent le camp de la paix. Et c'est vrai que Jérôme Gage disait que beaucoup d'universités ont des étudiants arabes israéliens. À Sciences Po, là, ils réclament l'annulation d'un master commun de Sciences Po Lille avec l'Université de Tel Aviv. L'Université de Tel Aviv, quand vous y allez, franchement, il y a des filles voilées. Enfin, c'est un... on voit vraiment que c'est un lieu où vit de facto la coexistence entre les Arabes, les Palestiniens et les Juifs. Donc je ne vois pas l'intérêt de se priver de ce laboratoire qui existe déjà. Et par ailleurs, je voudrais dire qu'on a moins entendu ceux qui réclament l'annulation aujourd'hui, par exemple réclamer l'annulation des partenariats avec la Chine concernant la situation des Ouïghours. Si on ne veut pas... il faut être cohérent et demander la même chose pour les universités du monde entier.
Vous êtes d'accord, François Miguet? Il y a un peu de jusqu'au boutisme parfois chez ces étudiants, ou peut-être des incohérences?
Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec la position de Jérôme Gage et de Gilles Bornstein. Ce sont des universités qui sont diverses, des universités israéliennes où il y a des grands talents, qui sont souvent d'ailleurs très progressistes, plutôt classés à gauche. Enfin, tout ça paraît assez absurde. Ce que je note surtout aussi dans cette école, c'est qu'il y a une sorte de vacances du pouvoir et qu'au fond les plus radicaux en profitent parce que il y avait eu la mort dramatique de Richard Descoings, puis ensuite Frédéric Millon qui avait un CV absolument impeccable mais qui a dû démissionner suite à l'affaire Duhamel qui a été un grand scandale, et puis ensuite Mathias Vichra qui a dû lui aussi démissionner à cause d'une affaire privée. Et là maintenant vous avez un administrateur provisoire, donc c'est aussi une école qui, j'ai l'impression, vit une sorte de psychodrame interne et qui sera peut-être, espérons-le pour elle en tout cas, résolue lors de la nomination d'une directrice ou d'un directeur le plus tôt possible, hein, parce que quand il y a vacances du pouvoir, eh bien on le sait bien, les organisations étudiantes bien organisées, bien radicalisées, en général s'infiltrent dans la brèche et prennent toute la place.
Je vous vois opiner de la tête, Bruno Cotrez. S'il faut mettre Sciences Po sous tutelle, comme le demandait Alain Minc, par exemple, essayiste économiste?
Non, certainement pas. Il faut d'abord avoir confiance dans des institutions qui existent, qui sont des institutions démocratiques de la vie universitaire. Sciences Po, comme toutes les universités, dispose d'un certain nombre d'instances internes qui assurent qu'ils sont tenus par des gens qui ont éminemment le sens des responsabilités. Et donc, il faut d'abord faire confiance à la démocratie. Mettre sous tutelle une université, on voit le symbole que c'est, ça serait un échec collectif pour tout notre pays, en fait. Fondamentalement, c'est bien au-delà de Sciences Po. Donc, c'est certainement pas la bonne méthode. Par contre, faire confiance au dialogue, d'une part. Après, utiliser une situation de crise pour faire mieux, pour s'améliorer, effectivement. La question de savoir si une université doit prendre des prises de position ou pas. Le fait de savoir aussi sur la question des partenariats, c'est un enjeu très important de la discussion de ce matin, et beaucoup ont souligné que s'il y avait vraiment une chose qu'il ne fallait pas couper, et que c'était peut-être la dernière chose à couper, c'était les relations interacadémiques, par la multiplicité des échanges, effectivement, qui ne se réduisent pas. Sinon, on va essentialiser les gens. On dit, ben voilà, parce que telle université est en Israël, elle est forcément complice, etc. Par contre, les étudiants, de leur côté, eux, en appelaient à une prise de conscience aussi, et d'après eux, certaines institutions avec lesquelles nous serions partenaires sont, au fond, liées ou complices, peut-être même, de ce qui se passe. Donc, le sujet est intéressant. Le sujet est difficile, on ne peut pas le résumer, effectivement, et c'est certainement pas vers la mise sous tutelle par l'État que la sortie par le haut pourra se faire.
On vous entend plaider pour le dialogue, pour cette méthode. Néanmoins, est-ce qu'en organisant ce débat, Nathalie Moret, la direction de Sciences Po n'a pas mis le doigt dans un engrenage fatal ? Parce qu'il y a eu un débat, mais ça n'a rien réglé. Les contestations continuent. C'est quoi la suite ?
Je ne sais pas quelle sera la suite, mais je pense qu'il faut faire confiance à l'intelligence. Si on ne peut pas... le dialogue est toujours plus important que tout. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense que le fait de mettre les gens autour d'une table, je ne sais pas s'il y a une table, mais effectivement, et de faire l'effort de s'écouter, et forcément, c'est par là qu'on sortira par le haut. L'université, c'est l'universalisme. Il ne faut pas l'oublier, je pense que c'est une dimension importante, le dialogue.
Merci, vous avez la parole, vous la gardez, Nathalie Moret. Quelle est la une des dossiers du journal de l'Est de la France ?
Justement, c'est là-dessus, sur ce qui est en train de se passer à Sciences Po et dans les universités françaises. Est-ce qu'il y a un malaise ou pas ?
Et la une du Point, François Miguet.
Alors cette semaine, c'est cheminots contrôleurs aériens, le grand braquage. On vous dévoile les coulisses de ce qui s'est passé entre les syndicats et le gouvernement pour préserver les Jeux Olympiques.
Vous parlez de braquage, vous aussi. Et Bruno Cotrès, vous avez une également.
Oui, c'est le nouveau magazine de la recherche de Sciences Po qui s'appelle Comprendre son temps, dont le nouveau numéro, le numéro 1, paraît sous le titre « Une Europe fragmentée ».
Merci à tous les quatre. Merci à Gilles Bornstein pour France Info, Canal 24. Demain, Canal 27, excusez-moi, pardon. Demain, les informés reviennent à 9h avec Jean-Rémy Baudot et Renaud Dely. Nous, on sera là à 20h.